J'ai rencontré François Lombard. François Lombard est biologiste. Il enseigne au collège et il est chargé de cours dans un institut universitaire, le TECFA. Explication.
TECFA, c'est une unité à l'université qui, l'acronyme correspond à Technologie pour la formation et l'apprentissage. On essaie ici de réfléchir à l'influence qu'ont Internet et d'autres technologies sur les manières dont quelqu'un apprend, que ce soit un élève, un enseignant, un étudiant, et la manière dont on enseigne, que ce soit à l'université, au collège, au cycle, à l'école primaire.
C'est à la fois l'utilisation des outils technologiques et puis ce qu'on peut en faire dans la pédagogie, c'est ça ?
Je pense que la plupart des gens ici seraient d'accord avec l'idée que les technologies elles-mêmes ne sont pas importantes, c'est ce qu'on en fait, c'est leur usage qui, à la fois, la technologie va modifier la manière dont on enseigne, dont on apprend, mais aussi elle-même, comme elle est mise en scène, comme elle est scénarisée, va déterminer l'efficacité. Donc il n'y a pas des outils qui intrinsèquement seraient bons ou mauvais. Il y a des usages qui peuvent être bons ou mauvais. Toute la réflexion, c'est comment est-ce qu'on intègre dans un enseignement, dans une formation qui peut être aussi une formation professionnelle, etc. Comment est-ce qu'on intègre l'outil technologique dans un tout qui est plus efficace. Et donc le regard ne porte pas d'abord sur l'outil lui-même, mais sur l'utilisation qui en est faite. Et c'est l'efficacité de cet ensemble de ce qu'on appellera nous ici le dispositif, c'est-à-dire ce que fait l'enseignant, ce que fait l'apprenant, ce que fait l'apprenant, ça peut être un formateur universitaire, ça peut être un maître de stage, etc. Ça peut être un élève, c'est pour ça qu'on a ce terme un peu générique. Ce qu'il fait lui, ce que font les apprenants, ce que font les élèves, ce que font toutes sortes de personnes, et ce que font les ressources, et ce que fait le dispositif technologique, donc un site web par exemple, un CD-ROM, l'ensemble de tout ça détermine l'efficacité.
Avec vos collègues du collège qui étaient plutôt du côté des sciences humaines ou des langues, on a évoqué cet aspect de côté à la fois positif et négatif des ordinateurs, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un obstacle pour l'enseignant parce que ça prend peut-être trop de place, et puis d'un autre côté c'est un formidable outil d'enseignement. Alors vous, comment vous le voyez ? Vous êtes très, très positif ou bien vous voyez aussi les désavantages, François Lombard ?
La question, c'est comment on va le mettre en scène. C'est-à-dire que Internet peut être perçu comme une source très ennuyeuse de plagiat et d'informations mal digérées, ou au contraire peut-être considéré comme un endroit où les élèves peuvent apprendre à construire leur pensée, peuvent apprendre à s'exprimer, à produire quelque chose qui a une reconnaissance sociale. Ça peut être aussi un endroit où on va chercher des informations de qualité tout à fait uniques et qui sont disponibles. Mais dans tous les cas, ce qui va déterminer la réussite, c'est comment on utilise l'outil qui détermine effectivement si c'est quelque chose qui est finalement profitable pour que l'élève apprenne ou non.
Est-ce que c'est votre travail aussi d'apprendre une approche critique aux élèves par rapport aux informations qu'ils trouvent sur le web, par exemple ?
Oui, certainement. Je pense que le tri, on a beaucoup parlé du tri comme étant quelque chose de très important. Moi, je le mettrais un peu en perspective. Pour être un peu ironique, j'ai vu une fois quelqu'un qui triait. C'était une personne qui découpait le journal, le courrier, et faisait des tas avec. On voit bien que c'est apparemment absurde. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Après, elle les lit. Alors, ça, c'est du tri. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le tri en soi, c'est ni un but, ni vraiment utile. Le tri prend du sens, à mon avis, lorsqu'il s'inscrit dans la perspective d'une production. Un chercheur trie ce qu'il lit et ce qu'il choisit de garder en fonction d'une production qui est, par exemple, une publication. Le tri n'a pas de sens sans la production finale auquel il va. C'est une des difficultés de l'école qui n'a pas l'habitude d'amener les élèves jusqu'à des productions, sauf dans le contexte de l'évaluation. Donc apprendre à produire un document ou une production qui peut être artistique ou qui peut être littéraire ou qui peut être scientifique ou qui peut être graphique, etc., n'est pas beaucoup pratiqué. Moi, je pense que c'est très important dans une société dite de l'information où les gens seront reconnus pour leur capacité à produire une forme de connaissance qui s'exprime dans un document qui est valable, qui est socialement reconnu. Je pense que dans ce contexte-là, apprendre aux élèves à produire permet d'une part de construire une compétence utile professionnellement, mais d'autre part, détermine le tri. Le tri existe en fonction du document que vous allez faire. Et donc, apprendre aux élèves à trier est certainement important. Oui, pour le dire sous forme de boutade, je dirais que quand moi j'étais étudiant, un bon étudiant allait à la bibliothèque, il ressortait avec 3 articles. De nos jours, un bon étudiant va à la bibliothèque, à la fin de l'après-midi, il ressort avec 3 articles. La différence, c'est que de mon temps, les mauvais étudiants sortaient avec 0 article. De nos jours, les mauvais étudiants ressortent avec 250 articles. Ça pose bien le problème de ce qu'on appelle parfois infobésité. Information overload en anglais, mais j'aime bien l'expression québécoise d'infobésité. Et savoir gérer ça fait partie de ce que nous devons apprendre à nos élèves.
L'enseignement de la biologie dans un collège, c'est, on a l'impression que c'est un peu, toutes ces disciplines scientifiques sont un petit peu à part dans la mesure où c'est des disciplines qui bougent beaucoup, beaucoup plus par exemple que le français où on peut encore lire Montaigne comme on le disait il y a 30 ans. Bien sûr, il y a de nouvelles méthodes d'analyse, mais enfin les textes restent ce qu'ils étaient. La biologie, ça change, ça évolue. Comment est-ce que vous tenez compte de ça par rapport aux objectifs même, aux enjeux des élèves qui doivent arriver au terme de leur cursus avec un certain nombre de connaissances?
Alors ça, c'est une grosse difficulté. La plupart des collègues en sciences sont mal à l'aise avec une nouvelle matu qui a d'abord très fortement diminué la place des sciences, alors même que la somme des contenus à enseigner a augmenté massivement. Ça a été récemment un petit peu réaugmenté, mais peut-être de manière un peu légère aux yeux de certains. Ce qui est sûr, c'est que dans plusieurs chapitres que j'enseigne en biologie, plus de la moitié de ce que j'enseigne n'existait pas au moment où moi j'ai fait mes études. C'est dire, à la fois, c'est fascinant parce que ça donne aux élèves l'idée d'une discipline qui bouge, ça donne quelque chose de dynamique, on peut fréquemment leur dire, ben voilà quelque chose que je vous enseigne cette année, l'année passée, je ne pouvais pas l'enseigner comme ça, parce que maintenant, on sait ça et ça et ça qui est nouveau. Dans un autre sens, ça signifie une réorganisation, non seulement, comme dans toutes les disciplines, des méthodes d'enseignement, mais ça demande une remise à jour des contenus eux-mêmes. La quantité de contenus nouveaux est énorme, massive et un petit peu troublante. Je crois profondément, dans ce contexte-là comme dans d'autres, plutôt à un travail d'accompagner les élèves ou d'autres apprenants qu'on peut avoir à former, des adultes parfois, vers la complexité, leur apprendre à gérer la complexité plutôt que de la leur simplifier. Vous savez qu'il y a un débat autour de ce que peut être la vulgarisation. J'aime pas beaucoup l'idée de vulgarisation, je serais plutôt en faveur d'une sorte d'autonomisation. En anglais, il y a le terme empowerment, rendre les gens capables de. Et moi, j'ai plutôt essayé de développer, aussi bien dans la formation des adultes dans lesquels je suis impliqué que dans la formation des élèves, les rendre capables d'affronter un monde complexe. Si on leur a présenté durant leur formation que des problèmes simplifiés, bien délimités, avec juste le nombre de données qu'il faut pour résoudre une question qui est facile, une question qui est souvent un peu fermée, c'est pas bien les préparer à un monde où les problèmes seront pas simples, où les données nécessaires seront noyées dans une masse d'autres données inutiles, et où les réponses ne sont ni uniques ni simples. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut un élève de 7e du cycle donner des textes directement de Nature et de Science et puis leur dire de se débrouiller. On est bien d'accord que c'est une tendance, un mouvement qui se manifeste tout au long du cursus vers plus progressivement d'autonomisation, leur apprendre à gérer des choses un petit peu plus complexes à chaque étape, progressivement, pour les rendre petit à petit capables de devenir des citoyens qui ne cherchent pas des vérités toutes faites, mais qui sont capables eux-mêmes de construire une opinion en ayant lu des avis différents, en ayant construit une connaissance sur la base de lectures un petit peu approfondies.
Comment concevez-vous, François Lombard, la complémentarité de votre discipline par rapport à ce qu'on pourrait appeler une culture générale qui peut être aussi humaniste? Comment la science peut s'insérer dans ce monde-là?
Bon, j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu sur ce qu'est la science. On a souvent une vision de la science un peu comme du Trivial Pursuit, où la science serait un ensemble d'informations à connaître sur la science. Donc il ne s'agit pas d'enseigner la science, mais s'enseigner comment faire la science. Je vois la science comme une manière de construire les connaissances. En science, on décide si quelque chose est accepté ou non. D'abord, toujours de manière temporaire, on est dans des hypothèses courantes, et ensuite on le décide en fonction de la capacité de cette théorie, de ce modèle, à expliquer toutes les données qu'on a. Donc sur la base des données que nous avons, voilà ce que nous pouvons interpréter. Donc premier point, c'est sur la base de données, en sciences expérimentales. Quand je dis ça, les mathématiques sont un petit peu en marge de cette définition-là. Et d'autre part, on garde une idée en fonction de sa capacité à résister à la critique. Donc la critique est intrinsèque au fonctionnement de la science. En science, une idée est bonne ou mauvaise parce qu'elle explique bien les données et parce qu'elle résiste à la critique de tous ceux qui ont pu la critiquer. Alors, c'est un modèle un peu idéalisé de la science. J'ai conscience que la science est aussi une construction sociale, qu'il y a des enjeux de pouvoir. Dans la durée, on voit quand même que tôt ou tard, Copernic finit par avoir raison. Tôt ou tard, et parfois très tard, parce que le monde est imparfait, les idées qui permettent mieux d'expliquer les données, parce qu'ils sont plus solides et qu'ils résistent, finissent par s'imposer. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est une manière de construire de la connaissance qui est indispensable, il me semble, dans ce que doit savoir un futur citoyen. C'est une autre manière qui ne remplace pas, n'est pas meilleure qu'une autre. D'autres approches comme la philosophie ou le français ou d'autres méthodes sont très valables. Je pense que c'est une méthode, une manière d'analyser le monde, une manière de comprendre le monde, qui part des données objectives, qui distingue en particulier les résultats de leur interprétation. Et il me semble que dans beaucoup de débats, cette distinction-là ne se fait pas. On passe des données à leur interprétation. Je crois que dans les rapports humains aussi, distinguer ce que quelqu'un a fait de comment on l'interprète serait aussi parfois une bonne idée. Donc de manière générale, je pense que c'est un outil intellectuel. Le mode de pensée qu'est la science est indispensable pour tout citoyen, même peut-être surtout s'il se destine à des études dans un autre domaine que les sciences.
Vous avez parlé, François Lombard, de sciences citoyennes. Est-ce que vous abordez avec vos élèves les grands débats d'aujourd'hui autour de la science et particulièrement du vivant? Donc vous êtes en plein dedans. Quand il y a des votations pour, je sais pas, les cellules souches ou quand on discute du clonage ou même du héros de l'année, de Darwin, est-ce que vous abordez ces questions avec vos élèves ou c'est trop compliqué ou comment ça se passe?
De manière générale, on essaye de le faire. Dans les cours habituels, je pense en particulier à la discipline fondamentale, qui est donc le cours minimum pour la plupart des élèves, c'est assez difficile, honnêtement. C'est vraiment très très peu pour faire tout le cours et je ne sais pas si beaucoup y arrivent. Par contre, je pense à un cours d'OC, d'options complémentaires, dans lequel effectivement, un cours qui s'appelle « Comprendre les biosciences », j'ai pu pratiquer quelque chose qui allait à fond dans ce sens-là, c'est-à-dire les élèves prenaient un article de vulgarisation, donc assez vulgarisé, et puis ils essayaient, à l'aide d'une grille que je leur ai proposée, technique potentielle enjeu, donc analyser dans cet article quelle est la technique qui est mentionnée, de bien la comprendre. Je me méfie un peu d'un discours bioéthique parfois qui repose, comme le colosse au pied d'argile, sur des connaissances très, très incomplètes de ce qu'est la biologie elle-même et qui se retrouve en train de dire des choses un peu parfois à côté de la plaque parce que la technique elle-même n'est pas bien comprise. Donc une bonne compréhension de la technique, suivie par une réflexion sur les potentiels. Qu'est-ce que cette nouvelle technique permet ? Exemple, les cellules souches. Alors comprendre comment on les fabrique, les différents types de cellules souches, celles qui sont issues d'embryons, celles qui ne le sont pas. Ensuite, les potentiels, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça ? L'analyse des potentiels permet par exemple de voir que dans beaucoup de tests ADN qui sont en fait ce qu'on appelle l'empreinte ADN ou le profil ADN, qui est le test le plus courant quand on dit test ADN, quand Sarkozy parle de test ADN, il parle de ça. Ces tests-là ne permettent pas de connaître quelque chose sur les parties codantes, c'est-à-dire les parties où il y a des gènes, notamment des susceptibilités à des maladies, etc. Donc se rendre compte des potentiels, c'est réaliser qu'un certain nombre des enjeux s'appliquent ou ne s'appliquent pas. Ensuite, les enjeux où ils vont être amenés à identifier les valeurs fondamentales qui s'opposent. Par exemple, quand on parle de cellules souches, certaines de ces formes de cellules souches se font à partir des embryons surnuméraires issus des fécondations in vitro qui sont dans un congélateur et dont on ne sait pas quoi faire. Alors, quelles sont les valeurs qui s'opposent ? Je demande aux élèves d'identifier que d'une part, pour certains, l'embryon est une vie déjà et que la vie est un absolu qu'on doit tenter de défendre à tout prix. Ça, c'est une valeur qui se respecte. D'autres estiment que la recherche permet de soigner potentiellement dans le futur des gens et que tenter de soigner le principe de bienfaisance, tenter de soigner les gens à long terme, c'est quelque chose qui est fondamentalement important. On a clairement deux valeurs qui sont respectables et qui s'opposent. Moi, je demande aux élèves d'identifier les valeurs des autres, y compris celles qui ne sont pas les leurs, et puis de les présenter de manière objective.
Là, ce sont des débats que vous suscitez, enfin, que vous amenez en classe. Est-ce que vous avez des élèves qui viennent spontanément avec des questions ?
Trop peu, mais oui, j'aime bien les questions. Et effectivement, il y a des activités qui vont susciter les questions. Notre système scolaire n'encourage pas la question. Les élèves ont l'impression, en posant une question, souvent de tresser la corde pour se pendre. Il y a des circonstances où les élèves vont poser des questions pour tenter de dévier le cours en ayant l'impression que ce qui ne sera pas dit ne sera pas dans l'épreuve. Il y a toutes ces tactiques, ma foi, elles font partie du métier d'élève, elles sont normales et on est habitué à faire avec. Mais il y a des élèves qui viennent avec des questions, ça sous-entend un rapport de confiance qui ne s'établit pas toujours. Toute la structure n'encourage pas ça. Moi, j'ai des cours où, au contraire, je construis tout le cours autour de la question et d'arriver à en trouver des réponses et en veillant à ce que ces questions soient structurantes et qu'elles couvrent l'ensemble du champ qu'on doit parcourir.
Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes aussi, parce qu'on a parlé un petit peu de la problématique autour du darwinisme ou dans certaines écoles c'est un peu compliqué parce qu'il y a des élèves qui refusent ou des parents qui refusent. Est-ce que vous vivez ça? Ça existe en Suisse, ce débat?
Il me semble qu'on le voit point. C'était un débat qui n'existait pas il y a quelques années. Moi, il me semble important qu'un scientifique soit au clair sur la portée de la manière de penser scientifique. Il y a une erreur fréquente qui serait d'opposer le darwinisme à l'unique créationnisme. Il y a toute une gamme de pensées possibles et on peut être créationniste et évolutionniste, ça ne s'oppose pas. Il y a toute une gamme de pensées. Fondamentalement, je pense que la science est une manière d'expliquer le monde, c'est une manière qui permet de prédire un certain nombre de choses. Et la théorie, j'aime pas dire le darwinisme parce qu'on a une théorie de l'évolution qui effectivement prend ses racines chez Darwin, mais qui a quand même beaucoup évolué. La théorie de l'évolution telle que nous l'avons actuellement a une puissance de prédiction qui est énorme. Elle a une confirmation qui est massive, et notamment dans les séquences de génomes qu'on trouve et qu'on peut expérimenter en classe. Et justement, les nouveaux outils dont vous parliez permettent en classe d'aller tout simplement vérifier en quelques minutes. Est-ce que c'est vrai que l'insuline humaine est similaire à l'insuline de d'autres animaux? Et on voit très vite que l'insuline, je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le faire pour des dizaines et des dizaines d'autres protéines, est-ce que c'est vrai que l'insuline humaine est similaire à celle du chimpanzé? Oui, elle est identique à celle du gorille, oui, elle est identique. Elle est un peu différente de celle de la vache, du cochon, de la poule, qui est encore un petit peu plus différente, etc. Et donc, on peut aborder de manière scientifique la question, dans le fond, est-ce que c'est vrai que l'évolution existe? Et nous avons des moyens récents qui permettent de vérifier cela. Et donc, d'avoir une attitude scientifique, de dire, après tout, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on avance? Voyons les données. L'erreur qui a été faite aux États-Unis, c'est d'essayer de mettre une question qui est clairement une question religieuse dans un cours de science. C'est une question qui mérite réflexion. Qu'est-ce que le créationnisme? Quelles sont les différentes manières d'expliquer la vie? Tout ça est intéressant. Mais le mettre dans un cours de science alors que c'est une question religieuse ou philosophique n'est pas pertinent.
On a parlé de technologie, de science de façon assez technique aussi. Est-ce que dans l'enseignement de la biologie, il y a encore une part de naturalisme, François Lombard? Est-ce qu'on va sur le terrain, par exemple? Est-ce que vous allez herboriser avec vos élèves ou recueillir des insectes ou regarder la nature comme elle est?
Oui, certainement, je pense que c'est extrêmement important. C'est un débat à l'intérieur de la biologie qui vit peut-être sa troisième ou deuxième révolution, avec une première biologie qui était, on va dire, petits oiseaux, petites fleurs, une biologie où le geste, c'était celui de mettre les jumelles ou le microscope sur les yeux. Cette biologie-là, en gros, continue à exister, mais a vu naître en son sein, et ça a fait gros débat, une biologie plus chimique, où le geste est celui de manipuler une pipette, c'est ça le geste. Et cette biologie-là, qu'on va appeler moléculaire, c'est celle qui actuellement est dominante, c'est celle qui a produit énormément de succès, et aussi, comme toujours, un certain nombre de choses qui font débat, je pense aux OGM par exemple, vous avez mentionné les cellules souches et d'autres choses. La question de base dans la biologie dominante actuellement, c'est la question comment ça marche à l'intérieur, quel est le mécanisme qui permet que, quelles sont les molécules qui, etc., que sont ces lymphocytes qui, etc. Il émerge, à mon avis, une troisième forme de biologie qui est une biologie de l'information, qui est déjà pratiquée, d'après mes propres recherches, de l'ordre de 50 à 70% du temps par tous les biologistes, qu'ils soient des biologistes de terrain, des botanistes, des écologues, des zoologues de terrain, etc. Et donc, se repose maintenant une opposition entre une biologie in vivo, in vitro d'autrefois, et puis une biologie qu'on appelle in silico. Et je vois réapparaître la guerre que j'ai connue il y a une trentaine d'années, quand la biologie in vitro a été opposée à la in vivo, il fallait quand même garder les anciennes valeurs, cette nouvelle biologie c'était bien, mais est-ce que les gens sauraient plus que c'est qu'une plante ? Je crois que la biologie est ces trois aspects-là, et qu'on ne peut pas ignorer l'un, parce qu'un autre apparaît. Je pense qu'on ne peut plus ignorer comment fonctionnent les bases de données du vivant et savoir y accéder assez facilement dans les classes, d'autant plus que c'est facile, puisqu'il suffit d'une connexion Internet. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aller sur le terrain. Moi, j'emmène mes élèves régulièrement dans la forêt, je les vois se plaindre qu'il y a des moustiques. Je ne crois pas qu'on doit faire l'impasse là-dessus. Je crois même que l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'une fois que les élèves sont allés sur le terrain, ils vont aller avec ces données-là, comme le font les chercheurs, les confronter à des bases de données pour comprendre, pour tirer du sens de la simple observation qu'il y avait telle et telle espèce. Voilà, la liste des espèces qu'on a trouvées n'est pas une fin en soi. Et effectivement, aller d'abord sur le terrain, voir ce que c'est qu'une plante, voir ce que c'est qu'une mousse, distinguer les mousses des lichens et d'autres choses, c'est très important. Se confronter à cette nature qui parfois fait un peu peur, même une forêt poncière où on va souvent, je vois beaucoup d'élèves être très mal à l'aise dès qu'il y a le moindre petit truc qui les effleure, une feuille, une toile d'araignée, mon Dieu. Je pense que c'est important, mais je ne pense pas qu'on doit opposer. La question, c'est comment s'articule la biologie de terrain à la biologie moléculaire et à la biologie de l'information.
Mais il me semble aussi, puisque vous parliez de banques de données, notamment des génomes, que c'est d'autant plus important de connaître les espèces, parce que ça ne me sert à rien de voir que deux génomes sont différents si je ne sais pas à quoi ressemblent les animaux dont on parle, par exemple.
Oui, c'est un problème. Je parlais avec un chercheur qui me disait que dans les cours qu'il donne à Lausanne, il y avait des tas de gens qui étaient en train de travailler sur toutes sortes d'espèces. Il leur a demandé de nommer l'espèce, ils savaient la nommer, mais de la décrire, ils étaient incapables de décrire l'espèce sur laquelle ils travaillent depuis 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ça, je pense que c'est un problème. Et je pense qu'il est important qu'on ait quand même une bonne connaissance des espèces elles-mêmes et que les gens aient pas peur d'aller dans la nature. Je pense que c'est important que les élèves puissent aller dans la nature, voir, sentir, toucher, qu'ils puissent avoir un rapport relationnel, émotionnel à. Dans cette ligne-là, on a au Collège Calvin un camp de biologie marine que pendant longtemps j'ai animé, qui est maintenant repris par un collègue qui le fait très bien, un camp de biologie marine à Sanary, où les élèves vont oser aller regarder sous l'eau, qui vont voir la mer comme autre chose que le désert qui est en somme la plage, qui vont aller regarder un peu les espèces là au fond, qui vont un petit peu se confronter à leur peur de cette espèce de chose qui monterait du fond et qui vous tirerait en bas. S'émerveiller de découvrir la diversité qu'on a même en Méditerranée et sans aller forcément à la mer Rouge. Je pense que ce sont des dimensions importantes. C'est certain qu'il serait bon que les élèves aient plus d'occasions d'aller dans la nature et pour ça il faudrait plus de temps en biologie.
Il y a un débat qui a été soulevé par les universitaires ces dernières années, c'est la relative désaffection des études de sciences à l'université. Est-ce que vous, en tant que professeur de collège qui prépare les élèves à l'université, vous essayez de faire quelque chose et quoi ?
Alors, les études montrent qu'on a une très grande diminution de l'intérêt pour les sciences quand on passe de l'école primaire au cycle puis au collège. Il semble que c'est corrélé particulièrement avec le degré d'abstraction. Donc la difficulté, c'est amener les élèves à formaliser, développer une réflexion plus mathématique, plus complexe, plus numérique parfois, en biologie, en chimie, en physique, tout en gardant cette fascination et cette passion pour les choses. Donc tant que les choses sont juste descriptives, à la limite un peu émerveillement, comme c'est le cas à l'école primaire, il y a une très grande fascination pour les sciences. Le challenge qu'il y a, c'est à la fois de former des gens qui sont capables d'avoir une pensée rigoureuse, précise, étayée, construite, et garder cet émerveillement. pense que ça, c'est un challenge qui se résout en partie par des activités, j'y reviens, de production, produire quelque chose qui fait du sens pour les élèves, dans lequel on est obligé d'aller au fond des choses et pas juste d'en égratigner la surface, donc d'aller vers la formalisation, découvrir finalement que la formalisation est un outil puissant qui me permet de maîtriser le monde. Les disciplines, avec ce qu'elles ont de rigueur et de discipline, deviennent intéressantes au moment où l'élève a compris que ça lui donne une puissance pour comprendre le monde, pour être quelqu'un qui agit dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait peut-être pas suffisamment faire et dans lequel je pense qu'il faut essayer d'aller plus.
François Lombard, dans la biologie, bien sûr, on étudie des génomes, des animaux, des petites plantes dans la nature, mais il y a aussi l'être humain au milieu de tout ça. Est-ce que c'est important dans les cours de biologie, notamment au niveau gymnasial, la connaissance de son propre corps ?
Oui, certainement. On a tout un chapitre sur la physiologie où on essaie de comprendre le fonctionnement de ses organes, des sens, etc. Je pense que c'est important que les élèves aient une bonne compréhension du fonctionnement de leur propre corps. On est souvent étonné de la méconnaissance de leur propre mécanisme, de la manière dont leur corps réagit. Je vois aussi une certaine distance de plus en plus grande avec le corps et la corporalité. Les dissections sont de plus en plus mal vues. Essayer de comprendre vraiment comment fonctionne l'intérieur de son corps, comment nous réagissons, comment on peut comprendre un certain nombre de nos réactions qui sont émotionnelles, qui sont aussi physiologiques, pourquoi est-ce qu'on transpire quand on a peur, et d'autres réactions, est, je pense, important. On voit de plus en plus à quel point les interactions sociales sont aussi marquées par, ou disons déterminées par des fondements physiologiques. Je pense à tout un débat autour des phéromones, je pense à des interactions telles que ce que Edward Hall appelle la proxémie, les interactions sur les distances, une approche un peu éthologique du comportement humain qui aide les gens à comprendre comment ils fonctionnent et peut-être à mieux aborder leurs propres interactions avec les autres ou avec leur corps. Je vois souvent une grande distance par rapport à son propre corps. Je vois presque les gens aller chez le médecin ou par rapport à la santé, un rapport de distance, quasiment comme avec une voiture et son moteur, où on ne voit pas à quel point ce que nous faisons influence notre corps. Et ensuite, on va chez le médecin, puis réparez-moi ça, s'il vous plaît. Je crois qu'un rapport sain et équilibré avec son corps passe d'abord par la reconnaissance, qui passe certainement aussi par une bonne compréhension des mécanismes, et puis une acceptation à travers ça, peut-être, de ses fonctions, et peut-être à travers ça aussi une meilleure gestion de sa santé, une meilleure compréhension de ses réactions, peut-être des interactions sociales avec d'autres.
Vous arrivez à faire tout ça en 4 années de collège ?
Certainement pas, il faudrait mettre beaucoup plus de biologie dans les programmes.